Ursula Renz, tu es née en Suisse où tu as fait tes études, mais tu es maintenant professeur à l'université de Klagenfurt, en Autriche. Tu as une longue carrière philosophique variée derrière toi, puisque avant de travailler sur Spinoza, tu as travaillé sur le néo-kantisme. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue à la philosophie et ensuite comment tu es venue à Spinoza?
Bon, ce sont deux histoires assez différentes. J'ai étudié pas seulement la philosophie, mais aussi l'allemand, parce qu'en Suisse, il faut vraiment avoir un sujet qu'on peut enseigner au lycée. Et la philo, c'est assez difficile. Et j'ai fait beaucoup des analyses linguistiques. J'ai travaillé surtout dans la linguistique sur le grammaire. Et après mes études, j'en avais marre. Et je me suis dit, si je fais un test de doctorat, ça doit être en philo. Et j'ai commencé à lire tant de choses au début du XXe siècle, les tournures du XIXe, XXe siècle, surtout sur la philosophie allemande. Et alors j'ai fait un test de doctorat sur le néo-kantisme. C'était énormément intéressant. J'étais fascinée par le néo-kantisme. Mais après, comme j'ai pensé, il faut choisir un sujet pour la thèse d'habilitation, je me suis rendu compte qu'il faut aller assez loin du néo-kantisme pour des raisons formelles. En Suisse et surtout en Allemagne, si on choisit un sujet sur lequel on va écrire la thèse d'habilitation, ça doit être assez différent de celui de la thèse de doctorat. Alors je me suis posé la question, je ne peux pas faire Kant, je n'étais pas tellement intéressée au XVIIIe siècle parce que ça ne me semblait pas énormément fort par rapport au lien, au concept philosophique, à part de Kant et quelques autres. Alors je me suis dit, je vais au 17e, mais là j'avais toujours l'impression que j'ai gagné une bonne compréhension de Descartes, de Leibniz, de beaucoup des systèmes, surtout rationalistes du XVIIe, à travers les analyses du néo-kantisme, mais non de Spinoza. Alors je me suis dit, ça, c'est quelque chose de nouveau, et c'était vraiment peut-être ça c'est un peu paradoxal, parce que chez les néo-kantiens, surtout Cohen, il y a une grande intérêt à la transcendance de la concept du Dieu au monde. Et le spinozisme est tout le renvers, c'est vraiment l'immanentisme. Mais j'avais l'impression que les raisons sont pas si différentes. Et alors, je me suis dit, je vais regarder les systèmes de Spinoza pour voir comment ça se fonctionne dans l'immanentisme.
Et donc, pour voir si les raisons de l'immanence chez Spinoza sont symétriques ou pas tant que ça, ou plutôt proches, paradoxalement,
pour comprendre, la pensée immanentiste de Spinoza. Et de voir comment ça peut résulter dans des différentes énoncés, mais dans une attitude assez pareille.
Et c'est alors que tu as fait cette thèse qui a donné lieu à ce livre, l'explicabilité de l'expérience. Tu peux nous expliquer le contenu du livre, de la thèse?
Bon. J'aimerais dire quelques mots sur le début de la thèse. J'avais l'impression que dans la discussion sur Spinoza, il y a toujours l'idée que les sujets finis, ils sont dissolus dans l'unité de substance. C'est vraiment une thèse hegélienne, et c'est aussi une thèse que les néo-kantistes ont attaquée. Mais moi, j'avais l'impression que ça ne peut pas être ce que Spinoza pensait. Parce qu'il y a tant d'intérêt aux êtres humains dans l'éthique et aussi dans le TTP et dans le traité politique. Il y a tant d'intérêt à l'homme. Ça ne fait pas du sens de supposer que Spinoza voulait
Qu'il va être
vraiment
dissous après.
dire les sujets finis disparaissent dans la substance de Dieu, substance qui est Dieu. Alors, je me suis demandé la question, où est vraiment le point que le sujet fini entre dans cette pensée? Et j'ai étudié le livre 2 surtout. Bon, j'ai étudié toute l'éthique, mais j'ai fait des analyses de la deuxième partie de l'éthique et d'un coup j'ai vu que c'est un programme rationaliste derrière qui dit tout être, tout phénomène qui existe, qui exprime quelque chose qui existe, c'est tout quelque chose qui peut être expliqué. Alors, je me suis dit, peut-être on peut prendre cette idée pour voir comment la théorie de l'âme humaine fonctionne de l'éthique. Et quel rôle cette conception de l'âme humaine joue. Et je propose une reconstruction, disons, de la deuxième partie de l'éthique. À partir de cet énoncé, de cette hypothèse, que selon Spinoza, tout être est explicable, et même ces phénomènes dont on pense ils ne le sont pas, l'expérience subjective, les expériences assez étranges comme bon, les fantaisies et toutes telles choses, les émotions assez étranges, assez paradoxal, et c'était comme une hypothèse qui me guidait dans dans l'éthique, dans la deuxième partie de l'éthique, et m'aidait à expliquer les arguments qui sont présents là. Et c'est un peu une surprise que ça s'est vraiment allé de montrer comment cette théorie de l'âme humaine fonctionne à partir de cette hypothèse. Et donc, en travaillant sur cette reconstruction, j'ai distingué des divers plans qui sont traités dans cette théorie de l'âme humaine, une théorie, un plan assez général, métaphysique, disons, et puis un plan qui a vraiment à faire avec l'individuation des sujets. Et là, je suis vraiment convaincue que Spinoza ne voulait pas faire
Détruire.
disparaître les sujets finis, mais au contraire, il voulait voir que, comme étant finis, ils étaient divers, mais comprenables, explicables. Et puis aussi, il contient aussi un plan, disons, plutôt psychologique ou aussi épistémologique de la psychologie cognitive qui explique comment des phénomènes spéciaux apparaissent.
Y compris, par exemple, les délires,
Les délires.
l'impuissance,
Ouais.
les angoisses,
Ouais.
tout ce que la psychanalyse va étudier
Oui.
100 ans après, 200 ans après. Tout cela relève de l'explicabilité intégrale.
Oui, bon, disons de l'application de l'idée que tout est explicable au phénomène concret. Ce n'est
Et...
pas une déduction, mais c'est une application d'une énoncé philosophique générale au phénomène concret.
Et c'est vrai aussi pour la religion et pour la politique.
Ah oui, bien sûr. Et je crois que surtout par rapport à la religion, c'est assez important que Spinoza, bon, J'avais toujours l'impression qu'il avait une sorte de tolérance envers les phénomènes religieux, non à la superstition, mais il estime, ou il respecte plutôt, qu'il y a des gens qui ont une foi religieuse assez forte, mais il a dit que même ces phénomènes-là sont explicables dans des termes psychologiques.
C'est important de souligner cela parce que toute une partie du discours actuel sur la religion insiste, et notamment le discours des religieux, insiste au contraire sur le fait que dans la foi ou la religion, il y a une part d'inexplicable, d'incompréhensible, d'ineffable. Et là, tu construis à partir de Spinoza une théorie exactement opposée.
Et je crois que ça, c'est aussi une force de son approche. Il ne fait pas disparaître la religion, mais il montre que même la religion, la vie religieuse, pour laquelle il avait une certaine sensibilité, je crois, que même cette vie religieuse peut être expliquée. Et
Donc,
si on comprend comment ça fonctionne, on peut faire usage à des bonnes idées, on peut faire usage d'une manière qui est bien pour les hommes. Ce n'est pas la suppression de la religion, mais l'explication.
Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as fait du spinozisme ou avec le spinozisme ensuite? Je sais que tu as obtenu de l'équivalent autrichien du CNRS un programme de recherche sur les formes de vie, où Spinoza est au centre, et où il y a tout un certain nombre de chercheurs de différents pays qui travaillent avec toi là-dessus. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce programme?
Oui, c'est un projet de recherche qui contient trois parties. Mais l'idée générale est vraiment que ce n'est pas du tout clair, tout d'abord, comment l'idée d'une forme de vie spécifique, alors spécifique dans le sens biologique de l'être humain, est conceptualisée dans la pensée spinoziste. Mais Spinoza a vu peut-être il ne faut pas avoir un concept de la forme de vie humaine spécifique, mais il faut comprendre la spécificité de la vie humaine. Mais paradoxalement, il est un caractéristique de la vie humaine que dans cette, disons, espèce biologique, des formes de vie ou des manières de vivre, peut-on dire, assez différentes se développent. Alors, une des questions est vraiment comment concilier ces deux convictions générales dans une pensée. Qu'il y a des limites pour 10 ans de changement. Spinoza est assez critique envers l'idée de métamorphose. Ça serait un problème pour son rationalisme parce que le changement de la forme de vie d'une manière biologique, ça n'est pas possible. Mais au cœur de la vie humaine, il y a une richesse, il y a beaucoup de manières de vivre culturelles, historiques, il y a aussi des individus qui se développent d'une manière qui est tout à fait spéciale. Il y a tous ces exemples chez Spinoza, l'ivrogne, le poète espagnol, et beaucoup des
Le
manifestations,
fou, le
le fou,
somnambule.
les somnambules. Les superstitieuses, alors il y a une grande richesse des phénomènes qui manifestent la possibilité de vivre selon de divers plans ou selon de divers ordres. Tout unique dans, disons, l'espèce de l'homme. Et alors, la question est vraiment comment peut-on réconcilier ces deux observations? Et tout d'abord, c'est vraiment le projet contient trois parties. Hein. C'est vraiment la métaphysique où nous nous posons la question quelle est la place de l'être humain, de la perspective humaine dans la métaphysique spinoziste. C'est une. Bon, c'est une de l'un côté, c'est vraiment une prolongation de mon livre, parce que là, j'ai vu qu'il y a une place dans le système, mais je n'ai pas encore montré comment ça influence les concepts métaphysiques. Alors ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie du projet, c'est vraiment sur le plan, disons, du discours de la philosophie naturelle, quelle idée, concept y a-t-il là qu'on peut utiliser pour montrer ce que Spinoza pensait de l'idée d'une forme de vie humaine spécifique sur un plan biologique. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième, c'est vraiment de montrer comment la richesse dans les manières de vivre entre dans cet panorama. Et il y a une thèse de Philippe Waldner qui sera écrite sur le rôle de la langue dans la société et d'autres. Alors c'est vraiment ces trois parties qui se groupent d'une manière qui se groupent aux marches, disons, que j'ai fait dans ce livre-là.
Alors, dans ces formes de vie, il y a des choses qui sont un peu difficiles dans les textes de Spinoza, parce qu'à la fois, il y a les textes où il a l'air de dire qu'il y a une forme de vie qui est supérieure aux autres, la vie rationnelle, celle qui mène à la béatitude, et d'autres textes, d'autres passages où il dit que finalement, si quelqu'un a envie de se pendre, eh bien qu'il aille se pendre. Il y a des textes où il a l'air de hiérarchiser les formes de vie, et d'autres, au contraire, où il a l'air de les placer les unes à côté des autres. Et vous étudiez cette différence?
Ah oui, bien sûr. Bon, c'est une autre aspect qui est plutôt sur le plan méthodologique, que bon, les textes de Spinoza, c'est pas un corpus tout à fait compact. Chaque texte a une logique différente, c'est différent, et même je dirais que chaque passage dans l'éthique suit une logique différente. Et il faut trouver, disons, l'angle herméneutique pour vraiment montrer de quel point de vue parle Spinoza à ce point-là. Est-ce que c'est un point de vue qu'il parle comme philosophe défendant un certain état, ou c'est un point de vue plutôt, disons, externe, où il parle comme un sociologue ou ethnologue, pour voir comment il y a ces différentes manifestations. Alors, dans le premier exemple, où il parle comme philosophe pour défendre l'État, ou une certaine séparation entre religion et État, il parle, disons, comme lui-même ou comme quelqu'un qui parle de la perspective de la première personne, mais dans le deuxième cas, il parle comme observateur, et seulement comme observateur. Alors cela peut expliquer déjà, pas tout, mais une grande partie de ces tensions.
Alors, en définitive, dans l'ensemble de tes travaux sur Spinoza, aussi bien ceux sur l'explicabilité de l'expérience que ceux sur les formes de vie, comment est-ce que tu caractériserais ta démarche, ta méthode, par rapport à d'autres interprétations du spinozisme?
Bon, tout d'abord, c'est toujours un intérêt pour un sujet assez important. Ici, c'était vraiment le sujet de la subjectivité. Et comment peut-on rendre compte au fait que la vie mentale a une subjectivité assez riche? Maintenant, c'est plutôt l'idée de la vie humaine dans sa richesse, mais aussi dans ses limites. Alors c'est peut-être la première, bon, pas la première étape, mais la première décision à prendre de choisir un sujet particulier. Et ce n'est pas un sujet qui est tout d'abord apparent dans le spinozisme, mais ce sont des sujets que je pense qu'on peut penser avec Spinoza. Mais pour les penser avec Spinoza, il faut vraiment travailler d'une manière riche, disons, avec les textes. Et cela veut dire qu'il faut être assez précise par rapport au contexte historique, mais il faut aussi discuter les énoncés qu'on y trouve d'une manière systématique. Et pour cela, j'utilise vraiment des méthodes différentes. Je suis influencée de l'un côté de la réception ou la philosophie analytique spinoziste des Angleterres qui prend des énoncés et discute des énoncés par rapport à l'argument et par rapport aux implications seulement, disons, internes et qui sont énormément rigoureux par rapport à l'argumentation et aux implications. Et de l'autre côté, je suis aussi influencée par, disons, la manière française à lire Spinoza, qui est beaucoup plus liée à, disons, l'analyse des exemples, l'analyse des métaphores, l'analyse des autres sortes d'enjeux que seulement l'argumentation, et non, ne pas seulement l'argumentation explicite et implicite, mais aussi les enjeux qui ont à faire avec la manière de thématiser quelque chose. Et si on combine ces approches, on voit quelle richesse il y a dans les textes. Et on voit aussi que on peut vraiment utiliser Spinoza pour penser des phénomènes qui, à première vue, peut-être n'ont pas une place tout à fait manifeste dans le spinozisme, dans le corpus spinoziste.
C'est-à-dire, si on va jusqu'au bout de ce que tu dis là, qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement du système et analysé les concepts et les mécanismes intellectuels qui le font marcher, à la limite, on peut continuer à se poser des questions sur des objets sur lesquels Spinoza n'a pas travaillé, et on utilise le spinozisme, on peut tenir un discours spinoziste sur des objets que Spinoza n'a pas connus.
Ouais. Ou peut-être, ça dépend. Je crois qu'il y a des phénomènes qui sont tellement étranges à Spinoza pour des raisons historiques que c'est assez difficile de vraiment se poser la question comment il aurait traité ces phénomènes. Disons, l'évolution des espèces, c'est quelque chose qu'il n'avait pas en vue. Et il y a d'autres phénomènes qui sont dépendant d'une manière des développements scientifiques, culturels plus jeunes que Spinoza lui-même, qu'on ne peut pas vraiment traiter, je crois. Mais il y a d'autres qu'on trouve des traces, disons, dans les exemples, dans les métaphores et dans la manière de traiter, disons, la Bible, où on trouve une richesse des indicateurs, disons. Et on peut utiliser le système, le cadre, pour analyser ces exemples et aussi des exemples analogues. Alors je disais, il faut toujours prendre garde. Il y a des choses qu'on ne peut pas penser avec le spinozisme, mais il y a des choses qu'on peut vraiment penser. Et tu as fait mention de la psychoanalyse. Il y a beaucoup des idées qui sont exprimées dans Spinoza, qui ont une certaine parallèle avec la psychoanalyse, mais d'une manière différente que Freud les a développées, bien sûr.
Dans ton travail le plus récent, au-delà du néo-kantisme ou de Spinoza, tu t'intéresses maintenant à des problèmes comme la connaissance de soi et l'histoire de la connaissance de soi. Tu as déjà publié un ouvrage collectif que tu as animé sur ce thème. Est-ce que tu peux nous dire comment, venant du néo-kantisme et du spinozisme, on en vient à s'intéresser à cette question et qu'est-ce que tu cherches dans ce nouveau travail ?
Bon, vers la fin de ma thèse d'habilitation, moi et Michael Ampe ont postulé pour un projet de recherche en Suisse qui avait le titre « La philosophie comme thérapie ». Et là, on a fait des recherches sur Spinoza, sur Shaftesbury, mais il y avait aussi une doctorante qui a travaillé sur Stanley Cavell. Et alors, c'était vraiment l'idée que la philosophie peut être une sorte de thérapie qui était le sujet de ce projet. Et de plus en plus, je me suis demandé, mais oh, l'idée de la connaissance de soi est vraiment centrale à cette idée de philosophie comme thérapie. Mais comment faut-il penser la notion de la connaissance de soi pour pouvoir expliquer la possibilité qu'une connaissance de soi peut changer quelque chose dans moi ou dans le sujet. Alors c'était vraiment une question qui se posait dans ce travail-là et j'ai commencé j'ai déjà pas mal connu les discours analytiques sur la connaissance de soi dans la philosophie analytique anglo-saxonne. Et j'avais l'impression que là, il y a une austérité énorme. Ils ont un concept de la connaissance de soi qui est tellement, disons, nu. Il n'y a que des structures assez fondamentales qu'ils prennent en vue, qu'ils ne peuvent jamais expliquer ces effets de la connaissance de soi. Mais de l'autre côté, j'avais l'impression qu'il y a aussi un certain intérêt, plus récent peut-être, aux effets. Mais il y a un paradoxe, ici, une conception de la connaissance de soi qui est austère, il s'intéresse aux effets de la connaissance de soi à partir des expériences que beaucoup de gens font dans leur vie quand ils comprennent quelque chose sur leur propre vie. Ça a un certain effet. Alors, les philosophes s'intéressent aux effets, mais ils ne peuvent pas se rendre compte comment ces effets peuvent être produits à partir de la conception qu'ils ont de la connaissance de soi. Alors, je me suis dit, il faut peut-être regarder des autres modèles et, de nouveau, réconcilier les analyses structurelles et analyses des conditions nécessaires et le combiner avec des matériaux qu'on trouve dans l'histoire de la philo. Et ça, c'était déjà l'idée derrière ce livre, cette collection. Mais c'est aussi l'idée que j'espère de développer encore plus dans mon travail, que prenons l'histoire comme matériel, comme matériau, et analyser ce qui se passe là, on peut développer une conception de la connaissance de soi qui est beaucoup plus riche que l'idée qu'on discute actuellement dans la philosophie anglo-saxonne, mais qui est toujours peut aussi montrer ce qu'il y a de juste dans les discours actuels, mais qui est enrichi. Alors c'est vraiment l'idée que pour expliquer la possibilité d'un changement de soi-même, il faut regarder de nouveau le concept de la connaissance de soi.
Donc c'est l'histoire qui apporte la chair vivante qui manque jusqu'ici à la définition abstraite.
Oui, exactement. Et Je regarde, bon, ça c'est une question de mes compétences, je regarde surtout l'histoire de l'âge classique à partir de, disons, Montaigne, Charon, jusqu'à Rousseau, qui me donne cette chair. C'est cher.
Alors, finalement, dans l'ensemble de tes travaux, aussi bien sur Amal Cohen et le kantisme, sur Spinoza, sous différents aspects que tu traites, maintenant sur la puissance de soi, est-ce qu'il y a une continuité, enfin, vu de l'extérieur, moi, cette continuité, j'avérais comme une recherche des Lumières, enfin, comme une défense de la philosophie des Lumières, y compris chez les philosophes très différents les uns des autres. Mais de toute façon, on a l'impression, dans chacun de tes travaux, il y a cette idée que tout le réel est intelligible, tous les phénomènes sont explicables, et qu'en outre, ce n'est pas simplement en réfléchissant sur un phénomène isolé, mais aussi en lui donnant une perspective historique, qu'on arrive à cette explication quasi totale du monde.
Oui, je crois vraiment que l'idée des lumières est vraiment importante. Déjà dans le thèse de doctorat, l'hypothèse que j'ai développée là-bas était que pas toutes, mais ces philosophes néo-kantistes que je regardais, Hermann Cohen, Paul Natorp et surtout Ernst Cassirer aussi, ils étaient des défendeurs d'une certaine idée des Lumières dans un temps
Où c'était difficile.
où c'était difficile, oui. Et j'ai montré que vraiment l'application du kantisme à la culture était une défense des Lumières. Et il y a en effet l'idée aussi, c'est vraiment présent chez Cohen, mais je ne me suis pas rendu compte jusqu'il y a que peu des années, il y a l'idée présente que tout est explicable là aussi. Dans la logique, c'est vraiment. Ça m'a frappé quand j'ai relu. Ce texte, après avoir travaillé sur Spinoza, que c'est assez présent. Et sur la connaissance de soi, c'est vraiment l'idée comment un processus particulier d'éclairage peut être fait intelligible. Et ça, c'est encore plus analytique d'une manière que je veux vraiment montrer comment les lumières ou ce qu'il y a des processus derrière l'idée des lumières, comment ça c'est intelligible, comment ça c'est possible. Alors c'est juste, c'est vraiment un thème qui unit mes travaux, mais ce n'est pas un thème que j'ai choisi directement,
C'est un
ça
thème qui
apparaît.
t'a choisi.
Peut-être.
Merci.